Chapitre 25. L'élection des 12 apôtres. Il y a une aube qui blanchit les montagnes et semble adoucir cette pente sauvage où l'on n'entend que le bruit du torrent qui écume tout au fond. Bruit qui, répercuté par les montagnes, remplies de cavernes, produit une rumeur particulière. Là, à l'endroit où ont fait halte les disciples, il n'y a que quelques timides bruissements dans les frondaisons et les plantes. Des premiers oiseaux qui se réveillent, des derniers animaux nocturnes qui regagnent leur tanière. Une bande de lièvres ou de lapins sauvages qui sont en train de ronger un bas buisson de mur s'enfuient effrayés par la chute d'une pierre. Puis ils reviennent timidement, levant les oreilles pour entendre le moindre bruit, et voyant que tout est tranquille, reviennent à leur buisson. La rosée humecte tous les feuillages, toutes les pierres, et le bois exhale une forte odeur de mousse, de menthe et de marjolaine. Un rouge-gorge descend jusqu'au bord d'une caverne dont une pierre qui fait saillie sert de toit et, remuant la tête bien droit sur ses pattes soyeuses, tout prêt à s'enfuir, il regarde à l'intérieur, regarde par terre, murmure ses « sip, sip » interrogateurs et gourmand des miettes de pain qui sont par terre. Mais il ne se décide à descendre que lorsqu'il se voit devancé par un gros merle qui avance en sautant de biais, amusant avec son air de gamin et son profil de vieux notaire, auquel il ne manque que les lunettes pour être au complet. Alors le rouge-gorge descend aussi et se met derrière le hardi monsieur qui de temps à autre enfonce son bec jaune dans la terre humide en quête de archéologie comestible, et puis s'en va après un « siop » ou un bref sifflement tout à fait polisson. Le rouge-gorge se gave de miettes et reste stupéfait quand il voit que le merle, entré tranquillement dans la caverne silencieuse, en sort avec une croûte de fromage qu'il bat et rebat sur une pierre pour la mettre en morceaux et s'en faire un copieux repas. Puis il retourne à l'intérieur, jette un regard furtif et, ne trouvant plus rien, fait un beau sifflement moqueur et s'envole pour finir son chant à la cime d'un rouvre qui plonge sa tête dans l'azur du matin. Le rouge-gorge s'envole aussi à cause d'un bruit qu'il entend venir de l'intérieur de la caverne, et il reste sur une petite branche qui pend dans le vide. Jésus s'avance sur le seuil et émiette du pain en appelant tout doucement les oiseaux par un sifflement modulé qui imite bien le cri de plusieurs petits oiseaux. Puis il s'écarte et s'en va plus haut, s'arrêtant contre une paroi rocheuse pour ne pas effrayer ses amis qui descendent vivement, d'abord le rouge-gorge et puis d'autres de différentes espèces. J'aime à penser, parce que j'en ai l'expérience, que les animaux, même les plus méfiants, s'approchent de ceux en qui, par instinct, ils sentent non des ennemis, mais des protecteurs. L'immobilité de Jésus ou son regard font qu'après peu de temps, les oiseaux sautent à quelques centimètres de Jésus. Le rouge-gorge, maintenant rassasié, vole au-dessus du rocher auquel s'appuie Jésus, s'agrippe à un petit brin de clématite et se balance au-dessus de la tête de Jésus avec le désir de descendre sur sa tête blonde ou sur son épaule. Le repas est fini. Le soleil dore la cime des montagnes et puis les plus hautes branches des bosquets, pendant que la vallée est encore tout entière plongée dans la pâle lumière de l'aube. Les oiseaux s'envolent, satisfaits et rassasiés, vers le soleil et chantent à plein gosier. « Et maintenant, allons réveiller mes autres fils, » dit Jésus. Il descend parce que sa grotte est la plus élevée, et allant d'une grotte à l'autre, il appelle par leur nom les 12 dormeurs. Simon, Barthélemy, Philippe, Jacques, André répondent tout de suite. Matthieu, Pierre et Thomas sont plus lents à répondre. Et alors que Jude Thaddée va à la rencontre de Jésus dès qu'il le voit sur le seuil, déjà prêt et bien éveillé, l'autre cousin et ainsi que l'Iscariote et Jean dorment à point fermé, si bien que Jésus doit les secouer sur leur lit de feuilles pour qu'ils se réveillent. Jean, appelé le dernier, dort si profondément qu'il ne se rend pas compte de celui qui l'appelle. Dans les nuées du sommeil à moitié interrompu, il marmonne « Oui, maman, je viens tout de suite. » Mais ensuite, il se tourne. Jésus sourit, s'assied sur le lit de feuilles ramassées dans le bois. Il s'incline et baise sur la joue son Jean qui ouvre les yeux et reste immobile comme une statue en voyant là Jésus. Il s'assied tout d'un coup et dit « Tu as besoin de moi ? Me voici !»« Non, je t'ai éveillé comme tous les autres, mais tu m'as pris pour ta maman. Alors je t'ai donné un baiser pour faire comme les mères. » Jean n'a que ses sous-vêtements, car il a mis son habit et son manteau pour couverture. Il s'attache au cou de Jésus et il s'y réfugie, la tête entre l'épaule et la joue en disant « Oh, tu es bien plus que la mère. Toi, je l'ai quittée pour toi, mais toi, je ne te quitterai pas pour elle. Elle m'a enfantée à la terre, mais toi, tu m'enfantes au ciel. Oh, je le sais. Que sais-tu de plus que les autres ? Ce que m'a dit le Seigneur dans cette grotte. Vois-tu, je ne suis jamais venu te trouver, et je pense que les compagnons ont dit que c'était indifférence et orgueil. Mais ce qu'ils pensent ne m'importe pas. Je sais que tu connais la vérité. Je ne suis pas venu vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mais vers ce que tu es au sein du feu qu'est l'amour éternel de la Trinité très sainte, sa nature, son essence véritable. Oh, je ne sais dire tout ce que j'ai pourtant compris dans cette grotte noire, obscure, qui est devenue pour moi tellement pleine de lumière, dans cette froide caverne où j'ai été brûlé d'un feu qui n'avait pas de forme, mais qui est descendu au fond de mon être et l'a enflammé d'un doux martyr, dans cet antre sans voix, mais qui m'a chanté des vérités célestes. Mais ce que tu es, seconde personne de l'ineffable mystère qui est Dieu et que je pénètre, car il m'a aspiré à lui. Et je l'ai eu toujours avec moi, et tous mes désirs, tous mes pleurs, toutes mes demandes, je les ai versées en ton sein divin, Verbe de Dieu, et il n'y a jamais eu de parole parmi celles si nombreuses que j'ai entendues de toi, aussi vastes que celles que tu m'as dites ici. Toi, Dieu, Fils, toi, Dieu, comme le Père, toi, Dieu, comme l'Esprit Saint, toi, qui est le pivot de la triade. Oh, peut-être je blasphème, mais c'est ainsi qu'il me semble, parce que s'il n'y avait pas toi, amour venu du Père et amour qui retourne au Père, voilà qu'il manquerait l'amour, le divin amour, et la divinité ne serait plus trine, et il lui manquerait l'attribut qui convient le plus à Dieu, son amour. Oh, j'ai tant ici, mais c'est comme de l'eau qui bouillonne contre une écluse et qui ne peut sortir. Il me semble mourir, tant est violent et sublime le tumulte qui m'est descendu dans le cœur du moment où je t'ai compris. Mais pour rien au monde, je ne voudrais en être libéré. Fais-moi mourir de cet amour, mon doux Dieu. Jean sourit et pleure, haletant, enflammé par son amour, abandonné sur la poitrine de Jésus comme si la flamme l'épuisait. Et Jésus le caresse, brûlant d'amour à son tour. Jean se ressaisit sous un flot d'humilité qui le fait supplier. « Ne dis pas aux autres ce que je t'ai dit. Certainement, eux aussi ont su vivre de Dieu comme j'ai vécu pendant ces jours, mais laisse sur mon secret la pierre du silence. » Sois tranquille, Jean, personne ne connaîtra tes noces avec l'amour. Habille-toi, viens, nous devons partir. »